La pression américaine sur les banques suisses ne se relâche pas. Le fisc de l'oncle Sam est bien décidé à mettre la main sur les milliards de dollars que des citoyens américains veulent soustraire à l'impôt. L'affaire UBS n'a apparemment pas suffi comme avertissement. 11 banques suisses se trouvent donc actuellement dans le collimateur du fisc américain. La Suisse espère bien finaliser ces prochains mois un accord fiscal avec les États-Unis. En attendant, le Conseil fédéral est prêt à remettre des milliers de données bancaires, pour l'instant encore cryptées, à Washington. Nous sommes avec Martin Naville, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes directeur de la Chambre de commerce Suisse-États-Unis, Martin Naville, en direct ce matin de notre studio de Zurich. On vous en remercie. Le scandale UBS, je le disais, ne semble pas vraiment avoir dissuadé les autres banques suisses. On n'a pas compris du côté de la Suisse, Martin Naville, à quel point la fraude fiscale est considérée comme quelque chose de très grave aux États-Unis. C'est ça la réalité ?
Écoutez, oui, c'est la réalité. Il faut bien dire que les choses ont tellement changé les derniers trois ans qu'on peut pas leur en vouloir que quelques banques suisses n'ont pas vraiment compris ce qui va se passer. Mais je pense que maintenant, c'est vraiment le moment de comprendre. Et puisque c'est pas seulement les États-Unis, on est en dispute avec l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Angleterre, tout le monde. Et donc, je crois que c'est vraiment le moment de comprendre qu'on a un problème et de le résoudre ensemble.
On peut pas leur en vouloir, dites-vous. Alors, c'est quoi ? C'est de la naïveté plus que de la cupidité de la part des banques ?
Écoutez, je crois nous les Suisses, on a commencé à croire à nos propres paroles en disant le secret bancaire était inébranlable, que c'était le granit, que personne pourra nous déranger, tout ça dans un environnement, un monde qui était en train de s'intégrer, et donc je crois qu'on a peut-être
naïveté,
un peu,
ouais.
Trop peu, oui, un peu de naïveté, un peu de croyance, un peu d'espérance aussi que ça va continuer, mais je pense que vraiment s'il y a un moment de comprendre que les choses ont changé, c'est maintenant.
Un mot quand même, on en parlait tout à l'heure, les banques privées sont dans le collimateur, certes, mais il y a aussi des banques cantonales, Zurich et Bâle, qui donc bénéficient de la garantie d'État, qui ont été faire la chasse de ces contribuables, à ces contribuables américains. Comment vous réagissez face à cela, des banques cantonales prises dans cet étau-là ?
Écoutez, c'est un peu étonnant, mais ce qui est un peu difficile, c'est que ni vous ni moi-même, nous savons vraiment ce qui s'est passé. Nous savons que ces banques sont sur la liste. Le résultat de beaucoup de dossiers que les Américains ont reçus de leurs propres contribuables. Mais là, il y a très très peu de preuves. Nous savons ni de la quantité ni de la qualité des choses que ces banques cantonales ont vraiment faites.
Oui, on sait qu'elles ont, en tout cas, arrêté de chasser les clients américains après l'affaire UBS. Et ça, on le sait du côté des banques cantonales. Ceci tendrait à prouver cela. Martin Naville, non ?
Peut-être, mais voilà, on est tous en train de regarder dans la boule de cristal et on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais enfin, quand il y a de la fumée, il pourrait y avoir du feu, et donc je pense que c'est très clair que nous avons un problème. Pour les banques individuelles, nous ne savons pas quelle est l'étendue du problème.
Bon, c'est clair qu'on a un problème, il est temps d'arrêter d'être naïf, c'est votre message ce matin. Est-ce que la Suisse est particulièrement visée ou simplement, il se trouve que les cas les plus importants de fraude fiscale ont été découverts dans les banques suisses ?
Il y a un peu des deux, puisque la Suisse était toujours est le plus grand pays de ce offshore banking, l'investissement à travers les frontières. De loin le plus grand, l'UBS était la plus grande banque dans ce métier, et donc c'est clair qu'on va plutôt s'attaquer au plus grand qu'au plus petit. Et en plus, il y a eu la malchance, ou on peut le nommer comme on veut, que l'affaire UBS a démarré avec un de leurs propres employés qui a parlé aux Américains et qui a délivré énormément d'informations. Et donc la Suisse étant fortement dans le collimateur, pas seulement par les Américains, mais aussi tous les pays européens, c'est clair que c'est là qu'on a les informations et c'est là qu'on va tirer dessus.
On a entendu des chiffres de 20 à 30 milliards de dollars, cette estimation des avoirs dans les banques suisses des clients américains qui auraient fraudé le fisc. C'est des chiffres qui vous semblent crédibles ?
Oh, c'est crédible. Je crois pas aux chiffres, mais je crois l'ordre de grandeur est certainement la bonne. Et donc aussi, on peut pas en vouloir aux Américains qui veulent vraiment activer leur propre loi et dire qu'ils vont pas faire une amnistie pour tout cet argent et donc qui veulent vraiment poursuivre leurs propres citoyens qui n'ont pas déclaré leur revenu.
Les conséquences commerciales, Martin Naville, vous êtes donc directeur de la Chambre de commerce Suisse-États-Unis. Cette crise fiscale peut avoir un impact sur les autres domaines où les relations entre la Suisse et les États-Unis sont encore a priori bonnes.
Jusqu'à là, ils sont très bonnes. Quand on regarde l'export suisse vers les États-Unis l'année dernière, c'était plus 2,6%, alors que vers l'Europe, c'était 0,4%, et la plupart des pays européens, c'était négatif. Les investissements bilatéraux dans les deux, donc les investissements directs dans les deux pays, ont vu une poursuite extrêmement positive, et donc ça n'a pas encore été touché. Mais au cas où on ne pourrait pas résoudre ce problème, ça pourrait facilement déranger non seulement les services financiers, mais aussi également toutes les compagnies suisses qui sont actives aux États-Unis.
Ça veut dire quoi? Ça pourrait les déranger? On leur ferait des misères administratives? Enfin, qu'est-ce qui pourrait se passer là concrètement?
Écoutez, on commence par des misères administratives du point de vue fiscal. On les impose beaucoup plus fortement. On n'approuve plus la double taxation. Donc, on implique une double taxation. Ensuite, il y aura certains désavantages pour vendre au gouvernement ou des entreprises près du gouvernement. Et ça peut continuer de décourager d'acheter chez des compagnies suisses. Donc, il y a énormément d'affaires émotionnelles là-dedans puisque... du point de vue américain, protéger les délinquants fiscaux, c'est vraiment aider des criminels. Et disons, c'est pas le coin dans lequel la Suisse aimerait être posée.
Votre message ce matin à l'encontre de ces banques, Martin Naville, c'est céder les données, céder les noms des clients, ouvrez les portes, et puis comme ça, on réglera le problème.
Ah non, pas directement. Pour moi, le message, c'est comprendre que la Suisse a un problème très général. Nous sommes en dispute, pas seulement sur les affaires d'évasion fiscale, mais aussi du fisc des compagnies. On a une dispute avec l'Europe. C'est de comprendre comment est-ce qu'on est arrivé dans une position qu'on est en dispute avec tout le monde dans les derniers 5 ans, et puis de rejoindre les rangs, de pas jouer aux partis politiques et d'essayer de résoudre ce problème.
La presse en parle aussi de cette affaire-là. Jean-François Moulin et Stéphane Delury nous ont rejoints. La Suisse prête à remettre des milliers de données bancaires. Ce serait une brèche sévère dans le secret bancaire et une brèche qui réjouit a priori le journal Le Courrier.
Vous allez le constater à la lecture de l'éditorial de Benito Pérez. Soyons clairs, écrit notre confrère, cette évolution est extrêmement positive, quels que soient les motifs cachés. Tout ce qui peut restreindre le droit des possédants à voler la collectivité ou à réaliser des opérations criminelles est bon à prendre. L'enjeu pour l'éditorialiste du Courrier est aujourd'hui d'empêcher que cette évolution ne s'arrête aux portes de la forteresse occidentale. Les moyens de pression à disposition de Bruxelles et Washington ne sont pas ceux de Tunis, Caracas ou La Paz. Or, note Benito Pérez, qui cite l'ONG Déclaration de Berne, qui estime que la perte annuelle subie par les pays du Sud pour cause d'évasion fiscale vers la Suisse est de 5,4 à 22 milliards de francs. 4 à 10 fois plus que l'aide suisse au développement, note notre confrère. Alors il poursuit, le seul espoir des habitants du Sud de ne pas être discriminés dans la lutte contre la corruption et la fuite des capitaux réside dans la solidarité des Suisses et de leurs ONG et des partis. Et l'éditorialiste du Courrier de lancer cet appel en guise de conclusion, je le cite, bien plus que de s'associer aux larmoiements radicaux à UDC, cette lutte devrait être empoignée par la gauche.
Faut-il se réjouir de cette brèche dans le secret bancaire, ce qu'il en reste, Martin Naville, comme le dit le Courrier?
Bon, écoutez, pour moi d'abord vite la définition du secret bancaire, il y a deux éléments. Un, c'est la confidentialité des informations financières des personnes, et la deuxième, c'est la protection de l'évasion fiscale. Je pense que la première, c'est un but très valable pour la Suisse. Le second, c'est vraiment un élément que nous devons quitter très très rapidement. Je pense que tout ce qu'on peut faire pour éviter que ça soit la protection de délinquants fiscaux, c'est bon.
Le secret bancaire n'existe plus, Martin Naville?
Ben si, je pense oui, pour la protection de la confidentialité personnelle, je pense, premièrement, il existe, et deuxièmement, il doit être renforcé, mais ne mélangeons pas ça en protégeant les délinquants fiscaux.
On le renforce comment là? Comment est-ce qu'on peut encore faire du côté de la Suisse pour renforcer le secret bancaire? Ça paraît aller complètement à contre-courant.
Écoutez, oui, c'est à contre-courant, mais tant qu'on le mélange, on va envoyer toute la casserole par terre. En le séparant très clairement, je pense quand même qu'il y a un droit de protéger les informations contre des États qui font de l'expropriation, contre des cercles criminaux. Donc là, surtout, on parle du Sud. Je pense quand même de dire que les gens riches au Sud sont tous des criminels, absolument faux. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont de l'argent et c'est valable, et pour des affaires politiques, criminelles, etc. Je crois que nous avons le droit de protéger ces informations.
Alors Stéphane Delury, la presse alémanique, la Basler Zeitung, on peut lire dans ce journal un commentaire plutôt critique.
Oui, il est signé Thomas Lutti, non pas le motocycliste, mais son homonyme journaliste. Alors il donne le ton dès la première phrase de son édito. Si les Américains poursuivaient les fraudeurs du fisc dans leur propre pays avec autant d'énergie qu'ils ne le font à les poursuivre en Suisse, alors, dit-il, ils auraient réglé depuis longtemps leurs problèmes de dette. Chaque citoyen américain qui a un compte en Suisse est aux yeux de l'administration américaine un fraudeur présumé. Du coup, il réclame des informations sous forme de forfait. Imaginez-vous, poursuit notre confrère, c'est comme si ici en Suisse le ministère public exigeait des banques les données bancaires de toute une catégorie de la population, comme les cafetiers par exemple. Cette méthode est tout simplement insoutenable, écrit-il. Et le Conseil fédéral se révèle démuni face à la pression politique. Pour le commentateur, le gouvernement a capitulé trop rapidement. C'est intolérable, dit-il, de voir avec quel manque de confiance en lui le Conseil fédéral a cédé face aux Américains. Ceci au lieu de défendre l'état de droit.
Ah oui, ça c'est vraiment un autre avis. En gros, les Américains devraient d'abord faire le ménage chez eux, hein.
Oui, écoutez, si vous m'adressez à moi,
oui. Ben,
là, il n'a pas raison, sinon qu'il aille faire de la moto, parce que le reste, c'était plutôt n'importe quoi. Mais c'est très clair qu'en Amérique, il y a certaines brèches. Et,
c'est n'importe quoi, vraiment, Martin Naville?
Peut-être on passera au deuxième élément, mais le premier, c'est qu'en Amérique, pas tout n'est propre, ça c'est très clair. Le président Obama a essayé de passer une loi hier qui va aussi obliger les banques en Floride et au Delaware de faire toutes les déclarations. C'est très clair qu'il y a des affaires à ranger là, mais comme vous savez aussi en Suisse, c'est toujours plus facile d'aller ranger chez les autres que chez soi-même. Et de dire, nous pas, mais les autres aussi, ça n'aide pas beaucoup, puisqu'on a un problème très clair là-dedans. Ouais. Pour la deuxième chose,
oui, le Conseil fédéral qui se retrouverait démuni. Oui.
Voilà. Alors là, écoutez, depuis 5 ans, on est en défensive, on donne des petits pas, tout le monde gronde chaque fois qu'on donne un petit pas. Je pense que c'est le moment. Le Conseil fédéral essaie de trouver une solution globale. Je crois que la dernière chose que le Conseil fédéral et ses négociateurs, surtout le secrétaire d'État, Bull, ont besoin, c'est que des gens dans les médias et puis dans la politique sont en train de toujours critiquer chaque petit pas. Faisons leur confiance. Je crois qu'ils font un très très bon travail. Et c'est une solution difficile. Et le pire, c'est tout ceux qui défendent le status quo, parce que je pense que c'est très évident que le status quo n'a pas servi là.
Donc ce que vous dites, Martin Naville, c'est que le Conseil fédéral n'a pas capitulé trop rapidement, comme beaucoup de commentateurs, et y compris beaucoup de politiques le disent.
Oh ben non, c'est très facile de dire c'est très capitulé trop rapidement. Une fois qu'on a la solution sur table, peut-être on pourra la critiquer, mais d'aller critiquer chaque pas dans la négociation, ça rend la chose très 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 difficile. Je pense que la démocratie de base, elle est très très bonne, mais dans une négociation difficile avec un pays comme l'Amérique où tout va très vite, ce n'est vraiment pas ça va pas beaucoup aider.
Bon, on reste avec vous, Stéphane Delory. Quelques conseils à la Suisse, hein, donnés par une ancienne ambassadrice des États-Unis en Suisse.
Oui, vous la connaissez sans doute, Martin Naville. Elle s'appelle Whittlesey. Elle a 72 ans. Ben oui, elle a 72 ans. Elle a occupé le poste d'ambassadeur en Suisse durant les années 80. C'était sous le règne du républicain Ronald Reagan. Ce matin, dans la Basler Zeitung, elle donne quelques conseils à la Suisse dans son différend fiscal avec les États-Unis. Alors, elle propose un changement de stratégie. La Suisse, dit-elle, doit s'appuyer sur ses alliés naturels aux États-Unis. Et ce que le Conseil fédéral n'a pas encore compris, dit-elle, c'est que ses alliés ne sont pas des figures comme Al Gore, mais plutôt du côté des républicains, car ce sont eux, les républicains, qui sont les tenants du libre marché. Et l'ancienne diplomate d'ajouter, je vous le dis, il y a des moyens de ridiculiser Barack Obama, en s'alliant par exemple avec des personnes qui écrivent des articles, des intellectuels républicains qui démontreront les incohérences de l'administration Obama. Bref, pour résumer le propos de Face Whittlesey, la Suisse doit apprendre à jouer à ce qu'elle appelle le hardball. Il faut durcir le ton et la méthode. Notons encore cette petite phrase qui fait mal. Ce qu'il manque à la Suisse, ce n'est pas de la confiance, c'est de l'intelligence politique.
Oui, en fait, tous les avis sont dans la nature et dans la presse ce matin. Vous c'est plutôt softball, hein, Martin Naville, à vous entendre ce matin.
Écoutez, c'est comme on définit. Vous savez, en Asie, il y a deux manières de se battre. Il y a le sumo, puis il y a le judo. Quand on est gros et lourd, on peut jouer au sumo. Quand on n'est pas très grand, il faut utiliser l'intelligence et faire le judo. C'est-à-dire, oui, on se bat, mais d'une manière plutôt intelligente que d'une manière brutale. Et donc, j'invoque le judo, et je suis tout à fait d'accord avec Faith Whittlesey que, à la longue, nous devons être beaucoup plus intelligents, comme on se traitait avec l'Amérique, mais à court terme, ça va être difficile. Et dans tous les propos de Faith Whittlesey, il faut toujours penser qu'elle est très, très républicaine.
Ouais. Mais est-ce qu'elle n'a pas un peu raison quand même? Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt s'appuyer sur des républicains, des intellectuels républicains aussi, alors qu'on chasse plutôt le démocrate du côté de la Suisse? Est-ce qu'on ne se trompe pas de crèmerie, si j'ose dire?
Bon, écoutez, l'affaire UBS a commencé sous l'administration Bush, donc sous les républicains. Dans l'affaire d'évasion fiscale, c'est une des seules choses en Amérique où ils sont d'accord. C'est les criminels, on va les poursuivre. Donc, de penser que les républicains vont nous aider beaucoup plus fortement que les démocrates, c'est un peu rêvé. Et en ce moment, c'est les démocrates qui sont au pouvoir exécutif à la Maison-Blanche. Et donc, aller chercher les républicains aussi, c'est à double tranchant.
Oui, un mot quand même, on revient après à la presse romande. Vous avez vu les primaires, le modéré Mitt Romney a écrasé, alors là vraiment, c'est plutôt du sumo que du judo, a écrasé son rival conservateur Newt Gingrich dans la primaire de Floride. Une victoire qui lui donne un clair avantage pour affronter éventuellement M. Obama au mois de novembre. Martin Naville.
Oh, pas encore tout à fait, mais vous savez, il y a une semaine, à la Caroline du Sud, Romney a pris une gifle incroyable. Alors, je pense maintenant, au moins, son nouveau deuce, si on parle en tennis, pour ne pas parler sumo. La gifle que Gingrich a pris est très grande aujourd'hui, mais la stratégie qu'il va poursuivre, c'est essayer de chasser donc son troisième adversaire très conservatif, Santorum. Et si vous prenez les votes de Santorum et de Rick Santorum et puis Gingrich ensemble, ils ont eu le même nombre de voix en Floride que Romney à 46%. Et donc, je crois que ça ne sera pas fini. Il a aussi promis de poursuivre jusqu'à la fin. L'en-tête de son truc, c'était 46 states to go, donc 46 États encore à voter. Et je crois que Gingrich ira juste à la fin. Je pense toujours que Romney l'aura à la fin, mais ça ne va pas être facile.
Ah oui. Ah, mais quel serait le meilleur président allié pour la Suisse dans le débat qui nous occupe? Quel serait le meilleur pour le conflit fiscal? Le républicain ou le démocrate Barack Obama? Oh,
écoutez, il n'y aura pas de solution facile parce que les deux présidents ne vont pas s'impliquer dans des affaires fiscales. C'est vraiment quelque chose que la justice et le fisc américain vont poursuivre, que ce soit un gouvernement démocrate ou républicain. Mais pour l'affaire générale entre la Suisse et les États-Unis, je pense quand même Romney comme personne qui est fortement engagée dans les affaires, qui connaît le commerce international, pourrait quand même être un peu plus avantageux.
Romney, donc. Les États-Unis, Jean-François Moulin, c'est aussi la fierté d'un GI. Un GI fier d'avoir abattu 255 ennemis irakiens.
Il s'appelle Chris Kyle, sniper. C'est son métier, du moins sur le terrain des opérations en Irak. Il a abattu 160 personnes et même 255, si l'on y ajoute ses victimes non recensées par sa hiérarchie. Alors Le Matin nous raconte longuement le destin militaire de ce Texan de 37 ans qui a travaillé la terre avant de rejoindre à 26 ans la marine. Il se retrouvait au front dès 2003 avec pour tâche sécuriser la ville de Nasiriyah que le gros de l'armée américaine devait traverser pour envahir Bagdad. Son supérieur l'a alors chargé de prendre un fusil à haute précision et de se mettre à la fenêtre d'un bâtiment abandonné. Chris Kyle a bien sûr écrit ses mémoires qui sont vendues à 200 000 exemplaires en 3 semaines. Il raconte notamment comment il a fait sa première victime, comment il a abattu une femme tenant une grenade. Et il écrit, le sniper, il écrit, je le cite, « La vie des militaires était clairement plus précieuse que l'âme pervertie par le diable de cette femme. » Ce soldat surnommé le diable ou l'exterminateur, admirateur des cow-boys, dit regretter de ne pas avoir tué davantage, car poursuit-il, le monde est un endroit bien meilleur sans les sauvages qui prennent des vies américaines. Sa femme raconte que son mari, depuis qu'il a quitté l'armée, se réveille la nuit angoissé, lui réfute ses allégations et se plaît à préciser, à insister qu'il est, selon l'armée, le meilleur, mais pas le seul sniper.
Bon, en tout cas, c'est le seul qui se vante dans un livre d'avoir tué autant de personnes. Est-il un héros ou un diable, Martin Naville? Quel regard vous avez sur cette Amérique-là?
Bon, écoutez, en guerre, ça sera toujours très proche entre le diable et le héros. Le héros, c'est ceux que les médias font héros, puis les autres, c'est les diables. Et je pense qu'il est, c'est un peu un fou furieux, mais malheureusement, la guerre en fait. Mais il y a aussi des fous furieux dehors des États-Unis. On pense à la Suède, on pense à Zoug il y a 10 ans. Il y aura toujours ces gens-là. C'est malheureux, mais bon, c'est aussi malheureux que l'existence de guerre autour du monde. Je pense qu'il faut un peu le déplorer, ce pauvre gars. Et puis, surtout pas en faire un héros, parce que sinon, les gens vont... Encore des autres fous qui vont essayer de le copier.
Vous souhaiteriez que les États-Unis ne s'engagent plus dans des guerres internationales comme ils l'ont fait ces 50-60 dernières années?
Écoutez, de temps à autre, on était extrêmement contents. On était extrêmement contents la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. On était très, très contents aussi en Kosovo, quand enfin on a fini le massacre. Dans beaucoup d'endroits en Afrique, on était très contents. D'autres endroits, on était beaucoup moins contents. Je pense que c'est très compliqué. La guerre, c'est quelque chose de désastreux, mais malheureusement de nécessaire, probablement dans l'humanité. Et donc, je pense déplorablement, j'aime mieux avoir les Américains en Afrique que d'autres nations.
La guerre, y compris la guerre économique. Merci beaucoup, Martin Naville, d'avoir été notre invité dans notre studio de Zurich ce matin.
Et une très bonne journée à vous.
Bonne journée à vous. Vous êtes directeur de la Chambre de commerce Suisse-États-Unis.